On sera bienvenue dans cette émission. La République démocratique du Congo va commencer à partir de ce mois d'avril 2026 à recevoir temporairement sur son sol des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis dans le cadre des modalités définies conjointement. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié dimanche 5 avril 2026 par le ministère congolais de la communication et médias. La prise en charge logistique et technique sera assurée par le gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans les mouvements des personnes à travers le monde. Aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics de la RDC, précise le communiqué. Ces mécanismes s'inscrivent dans le respect de la souveraineté nationale, des exigences de sécurité et des engagements internationaux du pays selon la même source. Cependant, une frange de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l'appliquer. Quel est le tir-faire de cet accord entre la RDC et les gouvernements américains relatif à l'accueil des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Christian Mwando Simba, il est député national élu des Moba dans la province du Tanganyika. Il est cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Il est également ministre honoraire. Bonsoir Christian Mwando Simba.
Bonsoir Guy.
Et également ici au studio, le professeur Alidor Tubanda, il est docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale IPEN en sigle. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Bonsoir professeur Alidor Tubanda.
Bonsoir monsieur.
Et en ligne, Jean-Thierry Mosenepo, il est cadre du parti politique Convention des Congolais Unis CCU, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir Jean-Thierry Mosenepo.
Bonsoir Guy et bonsoir à tout le monde.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, le gouvernement congolais annonce l'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers dans le cadre d'un partenariat avec les États-Unis. Un programme présenté comme strictement encadré, limité dans le temps et sans aucune charge pour les trésors publics. Les sites sont déjà prêts dans la capitale, précise le ministère de la Communication, avec un suivi administratif et sécuritaire serré. Entre coopération internationale et défense de la souveraineté national, quels sont les contours réels de ces dispositifs migratoires? Éléments de réponse dans ces papiers de Jean Gandou, rendus par Christian Makasinga.
Ces dispositifs s'inscrivent dans un cadre de coopération migratoire directement coordonnée avec les États-Unis, rapporte le communiqué du ministère congolais de la communication rendu public dimanche 5 avril 2026. Ce document précise que, je cite, la souveraineté nationale reste pleinement respectée, tout comme les engagements internationaux de la RDC en matière de protection des migrants. Fin des citations. Sur le terrain, l'opérationnel sera assuré par la partie américaine. Dès la logistique, l'encadrement technique, en passant par les structures spécialisées et autres, Washington prendront tout en charge. Et le gouvernement congolais insiste, aucun front du budget de l'État n'y sera mobilisé. Les lieux d'accueil ont été sélectionnés dans la ville province de Kinshasa. Objectif, garantir une prise en charge administrative, sécuritaire et humanitaire, considérée comme optimale. Autre précision clé, les ministères de la communication rassurent qu'il ne s'agit en aucun cas d'un mécanisme d'installation durable. Pas des transferts automatiques, pas des statuts permanents. Chaque dossier sera examiné au cas par cas sous le strict respect des lois congolaises. Enfin, Kinshasa réaffirme sa pleine maîtrise du processus admission, séjour, retour. Toutes les dispositions demeurent entre les mains des autorités nationales, dans un dispositif qu'elle qualifie de contrôlé, maîtrisé et aligné sur les impératifs de sécurité du pays.
Merci Christian Makasinga. Jean-Thierry Mosenepo, on commence par vous. Vous êtes cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous expliquez cet accord RDC-gouvernement américain relatif à l'accueil des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis?
Merci beaucoup. D'abord, il faut signaler que la République démocratique du Congo n'est pas engagée dans une politique d'immigration au sens classique, mais dans un mécanisme temporaire, encadré et souverain d'accueil de migrants en transit défini avec les États-Unis, comme l'a signifié le communiqué du porte-parole du gouvernement. Il est essentiel de parler de migrants et non d'immigrants, car il ne s'agit ni d'installation durable, ni d'intégration. Chaque situation, il faut le signifier, est traitée individuellement sous le contrôle des autorités congolaises dans le respect strict de notre souveraineté et de nos exigences sécuritaires. Il faut aussi ajouter par ailleurs que cet accord présente un avantage fondamental. Il ne coûte absolument rien au contribuable congolais, la prise en charge étant entièrement assurée par le gouvernement américain. Il s'inscrit dans une logique de coopération internationale et de positionnement stratégique de notre pays. Face à cela, c'est vrai, certaines ONG s'agitent et appellent au rejet, souvent sans proposer d'alternatives crédibles. Mais gouverner, ce n'est pas céder à l'émotion ou à la pression médiatique, c'est décider en fonction des intérêts du pays. La RDC ne peut pas refuser d'exister sur la scène internationale au motif de peur entretenue. Enfin, il y a aussi une dimension humanitaire qu'il ne faut pas ignorer. Ces migrants sont des personnes en situation de vulnérabilité et la RDC choisit d'agir avec responsabilité et dignité, comme le font déjà plusieurs États dans le monde qui participent à la gestion des flux migratoires internationaux. Accueillir temporairement, encadrer et accompagner dans un cadre sécurisé, ce n'est pas une faiblesse. C'est une marque de maturité et de solidarité internationale.
Voilà, Jean-Thierry Mosenepo, une des questions que se pose l'opinion dans ces pays, c'est pourquoi on ne peut pas expulser ces gens dans leur pays d'origine.
Bon, écoutez, il y a des raisons qui peuvent être liées à des situations sécuritaires dans certains de ces pays, qui aujourd'hui empêchent à ce qu'on puisse les rapatrier vers chez eux. C'est le cas, par exemple, de ceux qui habiteraient l'Iran ou la partie sud du Liban ou encore le Yémen. Il y a toutes ces parties du monde aujourd'hui qui sont sérieusement bouleversées par ces problèmes, sans compter nous en Afrique. On a des sérieux problèmes dans le Sahel, il y a des problèmes dans le Soudan. Tout cela peut permettre à ce que le gouvernement, ensemble avec son partenaire américain, décide d'une localisation partielle, momentanée, en République démocratique du Congo, afin que si ces zones jugées perturbées se stabilisent, que ces individus puissent regagner leur foyer d'origine.
Voilà, dans les communiqués relatifs à cet accord, nulle part on évoque la contrepartie de ces partenariats. À votre avis, qu'est-ce que la RDC gagnera, n'est-ce pas, dans ces partenariats? Vous avez dit qu'il les présente beaucoup d'avantages, mais c'est quoi l'intérêt de la RDC dans ces partenariats?
D'abord, il faut noter que nous avons une dimension internationale. La RDC gagne d'abord en ce qui concerne sa stature internationale. Deuxièmement, donc c'est ça le poids diplomatique. Deuxièmement, c'est le renforcement de nos relations diplomatiques avec les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui en train d'avoir un accès privilégié avec la première puissance économique et militaire du monde, et ces relations directes avec une grande puissance ont des répercussions pour notre pays. Deuxièmement, ce sont des retombées indirectes. Il faut savoir que il y a des appuis qui vont se faire inhérents à ces accords, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan d'investissement et sur le plan de la coopération. Et aussi, il ne faut pas oublier le fait que la RDC se rend indispensable dans certaines discussions vu ce positionnement stratégique. Alors, maintenant, en ce qui concerne le coût et tout ce qu'il y a avec, il faut savoir que cet accord-là va être publié pour que les Congolais le sachent. Mais la diplomatie ne se fait pas avec la télévision. Tout ne se dit pas, mais tout se négocie. Vous avez sur ce plateau un député. Il faut savoir que la plupart des traités ratifiés par le pays sont portés sur la table des élus de notre pays.
Même celui-ci, on peut espérer qu'il sera aussi soumis à l'appréciation des parlementaires.
Mais obligatoirement.
Voilà. Dans les communiqués, il est dit que les sites destinés à accueillir les personnes concernées ont été retenus ici à Kinshasa. Quels sont précisément ces sites et comme il est dit dans ces communiqués, c'est à partir de ces mois d'avril que ces personnes seront accueillies. Est-ce que les différents sites sont déjà aménagés?
Justement, le communiqué du gouvernement a été très clair en ce sens que les sites ont été choisis et sont en cours d'aménagement. Maintenant, le reste, c'est selon le type d'individus qui vont être orientés vers ces sites-là, les sites seront au fur et à mesure rendus publics parce qu'il faut aussi noter le fait que c'est une question sécuritaire. Donc tout cela, c'est des événements qui vont être portés à la connaissance du public au fur et à mesure que le gouvernement est en train de travailler en profondeur sur la mise en exécution de cet accord.
Voilà, on sait toujours comment les choses commencent, hein, mais on ne sait pas toujours comment elles se terminent. Hein. Quelles sont les précautions prises par le gouvernement congolais, n'est-ce pas, pour prévenir les dérapages, hein, n'est-ce pas, pour que ces personnes ne puissent pas un jour, on ne sait jamais, hein, revendiquer aussi la nationalité congolaise. Ça peut arriver, n'est-ce pas?
Mais vous savez que nous avons des lois, nous avons des textes qui encadrent la présence sur le territoire national des étrangers. Nous avons ici plusieurs nationalités qui évoluent en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas eu à revendiquer la nationalité congolaise d'une certaine manière. Et le gouvernement a clairement dit que le cas de ces migrants est encadré par les lois qui concernent les questions des migrations, des immigrations, des mouvements des populations dans notre pays. Donc il n'y a pas de crainte à ce que ces individus-là viennent à revendiquer la nationalité congolaise en dehors de nos lois qui sont claires et qui sont de stricte application.
Dans les communiqués, il est dit qu'ils seront là de manière temporaire. Est-ce qu'on a limité les nombres de mois, les nombres d'années pendant lesquels ces gens seront ici au Congo, à Kinshasa?
Justement, c'est une question difficile à laquelle il faut répondre maintenant, pour la simple raison que d'abord, le choix se fait au cas par cas. Je vous donne un exemple simple. Si vous avez aujourd'hui un Iranien, il est difficile de dire exactement dans combien de jours la situation sécuritaire dans son pays d'origine va s'améliorer pour savoir quand est-ce qu'il faut le renvoyer chez lui. C'est cela aussi le côté humanitaire. N'oublions pas que nous-mêmes, Congolais que nous sommes, nous avons nos propres compatriotes qui sont en déplacement dans certains pays, notamment au Burundi avec ceux qui ont vécu les affres des terroristes du 1-23 à Ouvira. Il est difficile aujourd'hui de dire au Burundi, dites en quelle date est-ce que les Congolais qui sont réfugiés chez vous vont rentrer à Ouvira, parce que nous ne savons pas le jour, la date, l'heure où les terroristes du 1-23 vont complètement dégager l'est de notre pays.
Est-ce qu'on peut déjà connaître leur nombre, le second nombre de combien? Parce que ça peut être un million de personnes, vous allez les caser où?
C'est une question en étude, parce que la question ici est que le gouvernement étudie au cas par cas. Mais attendez, si le gouvernement, en toute souveraineté, ne se limitait qu'à 12 personnes, ils seront 12 personnes. Si le gouvernement se limite à 100 personnes, ils vont se limiter à 100 personnes. Donc, c'est en toute souveraineté que le gouvernement, l'exécutif de notre pays, va décider.
Merci, on vous regarde encore dans cette émission. Christian Mwando Simba, vous êtes député national élu des Moba dans la province du Tanganyika. Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Vous êtes également ministre honoraire. Comment vous réagissez à ces partenariats entre la RDC et le gouvernement américain sur l'accueil sur les sols congolais des personnes expulsées des États-Unis?
Je pense que ce qui a été décidé unilatéralement par le gouvernement sans l'accord du Parlement et illustre une fois de plus l'irresponsabilité totale de ce gouvernement qui d'abord ne se rend même pas compte, vous avez suivi mon ami et collègue Monsenempo, il ne se rend même pas compte que nous sommes en guerre aussi et que nous avons les pires difficultés. Il considère que nous sommes dans un pays où tout va bien et où on peut accueillir des milliers de personnes dont les États-Unis ne veulent pas. Il s'agit donc d'une question de responsabilité, une question de souveraineté, parce que c'est brader notre territoire, parce qu'aujourd'hui on va recevoir des gens qui sont indésirables aux États-Unis et dont on ne connaît pas les statuts, parce qu'en réalité, quand on parle de questions humanitaires et autres, on aurait compris que la République discute avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, si c'était des réfugiés. Mais ici, il ne s'agit même pas des gens qui sont réfugiés. Ce sont des gens qui sont indésirables dans un pays et que, en négociant à genoux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement congolais a négocié en toute souveraineté. Non, il a négocié à genoux.
Donc on a mis le gouvernement congolais devant un fait accompli.
Pas seulement mettre devant un fait accompli, le gouvernement congolais, qui est en train de quémander sa survie aux États-Unis, n'était pas en position de donner un point de vue qui affirme la souveraineté de notre pays. N'oublions pas aujourd'hui que Nous sommes dans un pays où, depuis 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en guerre à cause des flux migratoires incontrôlés, notamment avec les gens qui sont venus du Rwanda. Nous sommes également en proie aux ADF, avant-hier encore, des centaines de morts tous les jours.
Nous sommes encore à Mombasa,
nous sommes ici à Kinshasa. Des enlèvements, l'insécurité et autres. Nous avons des millions de réfugiés congolais en interne, des déplacés et en externe. L'État congolais est incapable de s'occuper de ça. L'État congolais est incapable de s'occuper de la sécurité de son propre, de sa propre population. Comment cet État, vous avez suivi il y a la semaine dernière, les quelques Kuruna qui ont été amenés à Kanyamakase, c'est dans un milieu censé sécurisé, on a tiré dessus parce qu'il y a la révolte, on ne sait pas les nourrir, on ne sait pas les payer. Donc cet État-là fragile, cet État incapable de s'occuper de ses propres populations, va négocier à genoux de recevoir des gens dont l'Amérique ne veut pas. Je pense que c'est de l'irresponsabilité. Ça m'appelle aussi à interpeller mes collègues députés nationaux. C'est dire comment ce gouvernement, ce régime traite et ne considère l'Assemblée nationale et le Sénat comme des quantités négligeables, un groupe de simples suiveurs sans aucune valeur.
Il est dit que l'accord sera soumis à la prestation
mais
de vous parlementaires.
Avant de commencer à annoncer l'application, c'est comme ça a été fait avec l'accord de Washington et le traité de paix avec le Rwanda. Normalement, avant que le président ne mette sa main dessus, il aurait fallu que nous puissions ratifier. Il est l'accord du peuple. Aujourd'hui, la priorité pour le gouvernement, s'il y avait un peu du respect pour cette assemblée qui est considérée aujourd'hui de manière claire comme une caisse de résonance du gouvernement, il fallait amener cet accord, qu'on puisse en examiner le contenu et que le peuple réuni en assemblée puisse donner son titus. On informe par un communiqué fait avec beaucoup de légèreté qu'il n'y a pas d'implication financière, comme si cette question concernait l'argent. Cette question, c'est une question qui concerne les questions sécuritaires sont dedans, les questions de peuplement, les questions de migration, les questions de statut des personnes que nous accueillons dans notre pays. Toutes ces questions n'ont pas été examinées et je pense que c'est de l'irresponsabilité et normalement, nous attendons que ce gouvernement s'en explique parce que je suis convaincu que même mon ami Moussenempo qui s'exprime à l'autre bout du fil ne sait pas. Personne aujourd'hui ne connaît quel est le contenu de cet accord-là. Vous voyez qu'il est très gêné pour vous donner les éléments sur le nombre, sur le statut, sur la durée, ainsi de suite. Donc voilà, c'est quelque chose qui marque une irresponsabilité. Le régime en place a besoin, un besoin criant et presque ridicule du soutien américain et il accepte n'importe quoi, y compris vendre la souveraineté de notre pays.
Le communiqué précise que ces mécanismes s'inscrivent notamment dans le respect des engagements internationaux que le pays a pris.
Quels engagements? Justement, qui a lu cet accord? Personne ne l'a lu. C'est-à-dire, on a donné une sorte de poudre aux yeux auprès des citoyens, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que le pays, quand vous ne savez pas protéger vos propres enfants, quand vous ne savez pas nourrir vos propres enfants, quand vous ne savez pas garder vos propres enfants, est-ce que vous pouvez accepter de recevoir des gens que vous ne pouvez même pas contrôler, d'autant plus que nous avons une histoire par rapport à des migrations non contrôlées.
À la place du gouvernement, qu'est-ce que vous auriez fait dans ces contextes, comme vous l'avez rappelé, où nous avons comme parrain de l'accord de Washington les Américains? Qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? On dirait non aux Américains alors qu'on sait que sur le plan sécuritaire, ils sont en train d'appuyer la RDC?
Non, je pense que nous avons déjà, le régime en place a déjà tout donné en termes de matière stratégique aux États-Unis. Aujourd'hui, il était question tout simplement de s'assumer et de dire aux Américains que le nombre de problèmes sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'égalité de souveraineté que j'ai à l'intérieur de mon pays, ce n'est pas possible que je puisse prendre soin des gens dont vous ne voulez pas chez vous. Les Américains ont une stabilité suffisante, ont de l'espace suffisant, ont une puissance économique, financière, militaire suffisante que pour cantonner ces gens-là quelque part. Pourquoi se débarrasser de ces gens dans ce pays si puissant, si stable, pour les amener dans un pays instable comme le mien? C'est une question pour ceux qui nous parlent tout le temps de souveraineté. Voilà, encore une fois, les gens qui nous parlent des étrangers, il ne faut pas les étrangers, on est dominé par les étrangers, qui sont aujourd'hui à genoux, en train de se contredire.
Merci, Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle est votre lecture de cet accord entre la RDC et le gouvernement américain relatif à l'accueil des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis?
Trois lectures m'obligent à cerner cette question. La première, c'est l'approche fonctionnaliste. Dans l'approche fonctionnaliste, j'essaie de comprendre quelles sont les fonctions d'un pouvoir politique. Pourquoi on obtient un pouvoir et pour en faire quoi? Il y a un auteur, Freud, qui dit « La finalité d'un pouvoir, ce n'est pas le conquérir, c'est l'exercer. » Et on l'exerce pourquoi?
L'exercer et le conserver.
On l'exerce... Même s'il faut les conserver, mais les conserver pourquoi? On l'exerce pour ce que Aoun dit, dimension sacrée du pouvoir. C'est quoi? La protection, la régulation et la dimension prophétique. Je suis en face du ministre du Plan. En quoi consiste la dimension prophétique? La dimension prophétique consiste à la planification, à la préparation, planification et prospection, prospective. Est-ce que la décision qui avait été prise, si je reviens sur la dimension juridique, a-t-elle respecté les accords que le Congo a signés au plan international, notamment la convention sur les statuts de réfugiés de 1951? Parce que le Congo a ratifié cet accord et le protocole qui en est suivi en 1975. Or, les États-Unis d'Amérique ne sont pas signataires de cette convention. Donc, ils peuvent refouler, ils sont dans cette liberté-là de refouler. Mais nous, nous ne pouvons ni refouler, ni refuser de protéger les réfugiés. À ce titre-là, en acceptant de recevoir ces gens dans notre pays, avec en signant un accord avec les Américains qui décident de refouler, c'est comme si nous marchions sur une disposition que nous, nous avions ratifiée.
Mais il y a des pays qui ont été aussi, n'est-ce pas, contactés par rapport à ça, et ils ont rejeté, ils ont refusé.
Il faut maintenant vérifier. Non, non, moi j'ai dit, nous ne pouvons pas
accepter. Les pays africains.
Nous ne pouvons pas.
Notamment les Kenya.
Moi, je ne dis pas qu'on devait accepter. J'ai dit qu'on ne devait pas accepter. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas cautionner ce que nous avons ratifié. Je me fais comprendre. On ne peut pas accepter le refoulement des réfugiés, qu'ils soient politiques ou économiques.
Et donc, il faut accepter
en signant cet accord, nous violons la convention. Parce qu'on accepte que les Américains refoulent. Nous ne sommes pas une province américaine, nous sommes un État souverain et indépendant. Quelle que soit notre faiblesse.
Et donc, on a aidé les Américains à refouler.
Oui, nous les avons accompagnés dans le refoulement
des accords que nous avons signés.
Mais nous ne sommes pas leur territoire. Nous sommes le territoire congolais. On ne peut pas héberger les refoulés américains sur notre territoire.
Ça, c'est sur le plan juridique.
Sur le plan juridique. Sur le plan politique, je venais de le dire, nous avons le pouvoir politique empêché par la dimension protection. Nous ne sommes pas capables de nous protéger nous-mêmes, mais nous pensons ajouter encore une masse de population dont on n'est pas sûr. D'abord, les conditions d'hébergement, même si les Américains, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Vous pouvez me citer le site déjà aménagé?
Or, ça commence justement.
Non, je demande si vous avez deux ou trois sites déjà aménagés. La protection, c'est aussi l'aménagement du territoire. Nous ne sommes pas capables d'assurer la fluidité de mouvement de la population. Et quand nous allons recevoir ces gens, on ne sait pas combien ils seront, je me demande comment nous allons circuler, parce qu'ils auront la liberté de mouvement. Ils ne sont pas des prisonniers, ce sont des réfugiés. Ils auront la liberté de mouvement, ils vont circuler où? Ils vont acheter quoi? ils vont être hébergés comment? Toutes ces questions-là doivent être posées. Nous avons d'abord le problème nous-mêmes de conditions de vie à Kinshasa. Il y a des gens, il faut voir dans le réseau comment nos frères qui font le moto dorment. Ils dorment où? Dans quelles conditions? Ils ne sont pas totalement encore pris en charge. Et même dans un foyer où vous n'avez pas encore réglé vos propres problèmes, vous ne pouvez pas accepter que votre frère vous envoie ses enfants. Ils vont vivre comment?
Et la dimension prophétique?
La dimension prophétique, c'est dans la préparation. Et dans la préparation, planification et prospective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, avant de prendre toutes ces mesures, le Congo allait se préparer à accueillir ces gens. C'est-à-dire mettre toutes les conditions acceptables pour une vie humaine, comme l'a dit le...
Thierry Monsenepo.
Oui, oui. Une vie humaine, toutes les conditions d'une vie acceptable, c'est-à-dire les sanitaires, l'assainissement du milieu. D'abord, nous vivons par moments dans des milieux insalubres à un niveau tel que si on fait passer quelqu'un qui vivra à Bumbu, vous allez vous demander s'il doit continuer à vivre à Kinshasa. Moi, je me dis aujourd'hui, si la situation était confortable, j'accepterais d'être à Goma ou ailleurs. Mais on ne sait pas ce
que... Est-ce que politiquement, cela ne peut pas... C'est les comportements de la RDC ou l'acceptation, n'est-ce pas, par la RDC de ces partenariats ne peut pas...
Et puis, je termine par rapport à la dimension prophétique. L'honorable venait d'ajouter un élément. Nous avons vécu la situation avec le Rwanda en 1994. Mobutu a accepté. Aujourd'hui, les conséquences, Mobutu n'est plus... Nous continuons à vivre les conséquences. Kagame lui-même a dit, ce dossier date d'avant Tshisekedi. Vous comprenez? Donc, nous risquons de laisser aussi nos enfants dans un pétrin dont on ne saura pas, ils ne sauront pas s'en sortir. Donc, la dimension prophétique, c'est aussi prévenir.
Voilà, par rapport à la
dimension... Parce que, dit-on, gouverner, c'est prévoir.
Voilà, par rapport à la dimension politique, j'ai demandé si... Est-ce qu'on ne peut pas justifier...
La dimension politique, c'est tout ça.
On ne peut pas justifier l'acceptation par la RDC de ces partenariats, parce qu'on est dans un contexte, ça a été rappelé ici, hein, où on est en partenariat avec les États-Unis, et on estime que dire non à ces Américains-là, dans ces contextes, ça risque d'être compliqué pour la RDC. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas justifier le comportement de la RDC?
Et ça risque d'être compliqué, mais maintenant... Depuis que nous avons signé cet accord avec les Américains, où est-ce que nous en sommes? La guerre, l'évolution de la guerre, nous sommes où?
Mais comment vous analysez le fait que
Goma est libéré?
Comment vous analysez le fait que depuis une certaine période, hein, certains pays ont tendance à initier ce type de partenariat? On se rappelle les partenariats qui existaient entre le Rwanda et le Royaume-Uni, un partenariat qui avait suscité beaucoup de polémiques. Cette tendance n'est-elle pas le reflet de l'échec de certains pays de pouvoir gérer comme il se doit cette problématique de l'immigration?
Je reviens sur la dimension régulatrice. Le pouvoir africain est en train de pécher parce qu'il ne veut pas s'assumer. La souveraineté, ce n'est pas un vain mot qu'on prononce, souverain, souverain, souverain. Ce n'est pas une chanson. La souveraineté doit se vivre. C'est comme un homme adulte. Il ne doit pas attendre qu'on lui dise, il faut te marier, il faut acheter une maison, s'il a l'argent. Il s'assume, il présente ses besoins aux parents pour dire, voilà, j'ai tel âge, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est ça la souveraineté. Est-ce que nous vivons cette souveraineté? Est-ce que nous sommes capables d'assumer notre souveraineté et décider de ce que nous voulons? Je prends le cas du Burkina Faso. Le jeune homme a dit, non, nous sommes un État, voilà ce qu'il faut pour un État. Et il est en train de faire marcher son pays sur les lignes de leur souveraineté, de ce qu'ils doivent attendre comme souveraineté. Mais pas, tantôt on dit une chose, nous sommes nationalistes, nous sommes ceci et on pratique d'autres choses. Je crains que on soit dans le populisme qui risque de nous amener plus loin. Mais, qu'à cela n'atteigne, je comprends tout de même que nous sommes dans une dynamique de reconnaître nos faiblesses pour solliciter l'accompagnement du monde, notamment des États-Unis d'Amérique, dans cette situation où la capacité militaire, comme nous l'avons toujours dit, semble ne pas donner le flux escompté. Mais sur le plan international, je voudrais qu'on se mette d'accord que nous avons péché par rapport à nos propres engagements.
Jean-Thierry Mossé-Depo, votre réaction par rapport aux analyses de l'honorable Christian Mwando Simba et du professeur Alidor Tibanda.
Merci beaucoup. Je regrette vraiment de ne pas être présent pour saluer mon grand frère Christian et le grand professeur Alidor qui sont là. Je voulais ici dire qu'il convient d'abord de replacer cet accord dans son cadre juridique et institutionnel. En droit international et en pratique diplomatique, tous les engagements conclus par un État ne relèvent pas nécessairement d'une ratification parlementaire préalable. Il existe des instruments, notamment les arrangements administratifs ou exécutifs, qui relèvent des compétences du pouvoir exécutif dès lors qu'ils ne modifient pas substantiellement l'ordre juridique interne.
Apparemment, les professeurs n'est pas d'accord avec vous. Hein.
Dans ce sens, l'initiative... Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Allez-y.
En ce sens, l'initiative du gouvernement s'inscrit dans ses prérogatives ordinaires de conduite de la politique extérieure sous réserve du contrôle a posteriori des institutions compétentes, notamment du Parlement. Maintenant, s'agissant des préoccupations sécuritaires, une approche rigoureuse impose de s'en tenir aux faits. Les dispositifs de ce type reposent sur des procédures de sélection. Le communiqué du gouvernement le dit, de filtrage et de suivi administratif, impliquant à la fois l'État d'origine, c'est-à-dire les États-Unis, et l'État d'accueil, la République démocratique du Congo que nous sommes. Il ne s'agit donc pas d'un transfert indifférencié de population, mais d'un mécanisme encadré, limité dans le temps et soumis à des critères précis. Par ailleurs, la distinction avec les cadres classiques de protection internationale, notamment ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont a fait allusion l'honorable Christian. Tient au fait, et ça tient au fait, qu'il ne s'agit pas ici d'un programme d'asile, mais d'un arrangement bilatéral spécifique, répondant à une logique différente. Alors, les critères relatifs au contexte sécuritaire interne et à la situation des déplacés internes soulèvent des enjeux réels, je reconnais. Mais qui relève de registres d'actions distinctes. La gestion des crises internes et la participation à des mécanismes de coopération internationale ne sont pas mutuellement exclusives. Ça, il faut le noter, et le professeur ne peut pas me contredire là-dessus. Elles peuvent coexister dans une stratégie globale de l'État. D'un point de vue analytique, l'engagement dans ce type de partenariat peut également être interprété comme un levier de positionnement diplomatique susceptible de produire des effets indirects sur d'autres priorités nationales, notamment pour notre cas, celui de la coopération et de soutien international pour la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Donc, s'agissant enfin de l'argument selon lequel les États-Unis se déchargeraient de populations indésirables sur la RDC, il convient de relativiser, s'il vous plaît. Les politiques migratoires contemporaines reposent fréquemment sur des accords de transfert vers des pays tiers. Le professeur le sait. Dans une logique de gestion partagée des flux, l'Allemagne l'a fait avec la France et d'autres pays de l'espace Schengen. Ce mécanisme n'est ni inédit ni spécifique à la RDC. En Afrique aussi, l'Ouganda l'a fait. Le Swaziland l'a fait. La question pertinente n'est donc pas de savoir si les États-Unis externalise une partie de leur politique migratoire, mais la RDC, a négocié des garanties suffisantes, c'est-à-dire l'encadrement juridique, le contrôle effectif, le caractère temporaire et respect des standards de sécurité, de dignité. Et ça, le communiqué du gouvernement est clair. Et pour finir, je voulais dire ici que l'argument selon lequel la RDC ne serait pas en mesure d'accueillir ou ne serait pas en état souverain, mérite d'être abordé avec lucidité, s'il vous plaît. Refuser toute coopération internationale au motif de nos propres fragilités reviendrait à enfermer le pays dans une posture de retrait permanent, parce qu'il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui ait une stabilité à 100%. En outre, le dispositif prévoit précisément une prise en charge logistique et financière par la partie américaine. ce qui distingue clairement ce mécanisme de la situation des populations locales non prises en charge, encore que le gouvernement est en train de démontrer que les déplacés internes et même ceux qui sont dans les pays voisins sont pris en charge.
Ah, ce n'est pas ce que disent les témoins sur le terrain.
Originaire de la province du Maïndombé, où les Mobondo ont sévi entre les provinces du Puy-Loup et du Maïndombé.
Il y a plus de 500 000 déplacés là-bas, mais qui ne sont pas pris en charge.
Les déplacés là sont pris en charge par le gouvernement. Dernièrement, nous avons enregistré les déplacements des membres du gouvernement au Burundi, en Tanzanie, pour aller organiser la prise en charge de nos compatriotes qui étaient déplacés de par les affres de l'insécurité portées par les terroristes du M23. Cela est démontré, cela est aujourd'hui vérifiable. L'Assemblée nationale vote le budget et dans ce budget, il y a une rubrique pour la prise en charge de ce genre de cas sur le plan humanitaire.
Merci.
Donc il ne faut pas dire que nos compatriotes, que ce soit des déplacés internes ou ceux qui sont à l'étranger, sont malmenés d'une quelconque façon.
Voilà, je ne pense pas que les déplacés puissent, n'est-ce pas, être d'accord avec vous, hein, et parce que nous avons souvent des reportages ici qui montrent, qui relatent les conditions dans lesquelles ces déplacés vivent à travers les pays. Hein. Voilà, nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui veulent donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et là, nous allons dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolosi, où Patrick Mbouli veut intervenir. On va écouter Patrick Mbouli pour vous, honorable Christian Mwando Simba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Cet accord entre la RDC et les États-Unis s'inscrit dans une logique de coopération stratégique et responsable. Il reflète la crédibilité internationale croissante du pays sur les enjeux globaux. La prise en charge par le gouvernement américain constitue un avantage financier non négligeable. Ce mécanisme respecte la souveraineté nationale ainsi que les engagements internationaux de la RDC. Il offre aussi une opportunité de renforcer les capacités en matière de gestion migratoire. Les dispositions sécuritaires annoncées visent à garantir un encadrement rigoureux des personnes concernées. Les critiques exprimées méritent d'être prises en compte dans un esprit constructif. Toutefois, elles ne doivent pas occulter les retombées diplomatiques positives de cet accord. La RDC s'affirme comme un acteur engagé dans la coopération internationale. La réussite dépendra de la transparence et de la bonne mise en œuvre des mesures prévues.
Honorable Christian Mwando.
Oui, je pense que notre ami Patrick Mbouli est totalement à côté de la plaque parce que considérer que être une poubelle pour les autres, c'est s'affirmer sur le plan international. Non, monsieur, je pense que personne aujourd'hui ne nous respecte en voyant ce qui a été fait parce que personne n'est dupe. Tout le monde se rend compte que nous avions nous avons reçu l'imposition des États-Unis. Le gouvernement a négocié avec deux genoux à terre et que aujourd'hui, un pays qui est en état de fragilité totale, un pays en guerre, un pays, on vient d'évoquer ici, qui a des troubles jusque aux abords de la capitale, un pays où il y a l'insécurité généralisée, un pays qui se classe aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres du monde, ne peut pas se permettre ce luxe de recevoir ceux qui sont rejetés par une autre nation. Aujourd'hui, la priorité de notre pays devrait être de consolider sa stabilité, de remettre sa paix. Au moment où le pays sera capable de se prendre en charge, de prendre en charge ses propres enfants, parce que, contrairement à ce que dit M. Moussenempo ici, c'est très grave ce qu'il dit, et les déplacés internes et externes l'entendent. Les gens meurent de faim en brousse, les gens sont affamés partout, et l'État est incapable totalement de les prendre en charge. Et qu'on ne nous parle surtout pas du budget de la République qui prévoit ça. Le budget n'est pas appliqué, et M. Moussenempo, ainsi que l'auditeur le sait, lorsque le 70% du budget est appliqué à autre chose, il faut se rendre bien compte que ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, On semble tout simplement se réjouir du fait que, voilà, les États-Unis vont prendre en charge les questions financières, la logistique, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Les questions sécuritaires, les questions de souveraineté, le professeur l'a dit tout à l'heure, ces gens-là ne seront pas prisonniers. Ces gens seront libres de se mouvoir sur le territoire congolais. Ils seront 500 000, ils seront 1 million et... Après, quand ils seront dans la nature, qui contrôle? Nous n'avons même pas la maîtrise de notre propre population. Nous ne savons même pas combien nous sommes déjà. Nous avons des problèmes d'identification du Congolais. Et nous allons mettre dans la nature ici au Congo, dans un pays aussi fragile, parce que ces gens-là, n'oubliez pas, viennent ici en République démocratique du Congo contre leur gré. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est les États-Unis qui choisissent de les expulser vers le Congo en attendant de trouver un accord peut-être avec leur propre pays.
Et ça viole même les droits humains.
Exactement. Et en ce moment-là, et d'ailleurs c'est pour ça que ce mécanisme avait été bloqué en Angleterre quand ils avaient l'accord avec le Rwanda. Ce sont les Anglais eux-mêmes qui ont dit que c'est contre les droits humains. En ce moment-là, ces gens qui vont venir contre leur gré habiter dans notre pays... avec la liberté de mouvement, puisqu'ils doivent se conformer aux règles internationales. Seront-ils dans leur cœur des amis du Congo, ou seront-ils dans leur cœur des ennemis du Congo? Vous voyez que vous préparez une autre forme de déchirement du pays, par inconscience, par envie de se maintenir au pouvoir, par la supplication de l'appui des États-Unis. Aujourd'hui, il est clair, d'après ce que nous comprenons, que la République démocratique du Congo est devenue un vassal de l'Amérique pour, je ne sais pas, quelques intérêts particuliers. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et au niveau de l'opposition, nous allons tout faire pour qu'on comprenne que cette affaire est non seulement illégale, mais ça brade la souveraineté de notre pays.
Merci, professeur Alidor Stubanda. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu. C'est Emina Mwanda.
Éminent Mwanda Hassani Kangolingoli, je vous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Le même cause entraîne les mêmes effets, dit-on. L'hospitalité africaine l'oblige bien, mais fallait voir dans quel contexte cela s'est ferré. Accueillir les expulsés américains dans les sols congolais, le temps que le pays est déchiré et traverse le moment le plus difficile dans son histoire, se taper des côtés. Le président de la République devrait réfléchir au pays et non autre chose populiste. Cela devrait d'abord passer par un respect des procédures en soumettant les dits accords au sein du Parlement et puis les ratifier après. Ma question est de savoir quelle motivation qui pousse le président de la République d'accueillir les expulsés américains en RDC le temps que son peuple périt au Burundi jeudi.
Professeur Alidor Kibanda.
Oui, merci. Il cherche la motivation. La motivation est claire. Je salue d'abord cet effort d'avoir renversé la tangente entre le Congo et le Rwanda. Le Congo était et le Rwanda était devenu l'enfant chéri des États-Unis d'Amérique. On a fait au-delà de notre stature d'État en acceptant de nous humilier pourvu que ce renversement puisse avoir lieu. Bon, on peut dire qu'il y a eu un effort diplomatique à louer, mais cet effort risque de nous laisser encore dans beaucoup de pétrins si nous ne mettons pas notre intelligence à savoir ce qui peut nous faire avancer et ce qui peut nous bloquer. Il venait de soulever une question, la même cause peuvent produire le même effet si on n'y prend pas garde. C'est pourquoi la dimension prophétique donne une capacité d'anticipation. Nous avons vécu avec le Rwanda depuis bien longtemps. On n'a pas connu ça. Aujourd'hui, nous avons, quand on parle, je n'aime pas soulever cette question, mais nous savons comment certaines communautés qui n'existent pas dans l'histoire de ce pays, parce qu'on dit la nationalité congolaise est accordée à toute personne dont les territoires et les ancêtres ont vécu sur cet espace avant 1885. Mais nous avons aujourd'hui des Congolais qui n'ont ni territoire, qui n'ont ni ancêtres, qui ont vécu sur cet espace avant 1885. Et cela engendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais parce que la constitution dont il est question aujourd'hui a parlé de personnes et de territoires, nous allons encore avoir des Congolais qui n'ont ni territoire, ni ancêtres, mais parce qu'ils ont vécu au Congo. Ils n'ont plus où aller. Ils deviendront des apartheids et il faut qu'ils deviennent des Congolais. Donc, l'État, la dimension prophétique du pouvoir doit nous amener à anticiper, à réfléchir sur nos capacités et prendre des responsabilités, notre responsabilité, pour prendre des engagements qui peuvent nous apporter la paix et non pas l'implosion.
Merci.
Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse, mais nous avons 7,8 millions de réfugiés, je ne sais pas, approximativement.
Des déplacés internes.
Ils sont dans quelles conditions? Ils vivent comment? Non seulement dans les pays limitrophes, mais ici au Congo même, chaque jour, nous avons des déplacés, des gens qui quittent à cause de la faim, à cause de la misère. Nous sommes en train d'envahir Kinshasa. Et aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa est dans l'incapacité notoire d'assurer la mobilité. Maintenant, nous aurons, on ne sait pas combien, je crois fort bien que notre mission, nous avons débattu sur des hypothèses, peut-être que nous serons contredits par l'accord qui sera mis à la place publique. Donc, attendons voir que nous donne l'accord pour qu'on en débatte avec beaucoup plus de responsabilités.
Qu'on ne puisse pas s'upiter. Jean-Thierry Mosenepo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni au Nord Kivu, Fabrice Sambili.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Nous sommes profondément surpris de constater que l'épisode de l'opération turquoise de 1994 ne nous a manifestement pas servi de leçon. Cette opération à l'époque, présentée comme humanitaire, a contribué à créer des conséquences sécuritaires dont l'Est de notre pays paie encore les prix aujourd'hui. Comment expliquer qu'un pays comme la RDC, déjà fragilisé sur le plan sécuritaire, accepte d'accueillir sur son sol des ressortissants expulsés de notre continent? Et lorsqu'on nous parle d'un acquis temporaire, mais dans notre histoire, les temporaires deviennent souvent permanents. Je pense que l'expérience des réfugiés ici du génocide rwandais de 1994 est là pour nous rappeler que les décisions prises à la légère peuvent engendrer des décennies de conflits, notamment dans l'est du pays. Pourquoi est-ce que les États-Unis, première puissance mondiale de surcroît, ne sont-ils pas capables de gérer eux-mêmes ces personnes, ne serait-ce que pour un temps limité? Pourquoi la RDC, qui peine déjà à assurer la sécurité de ses propres citoyens, devrait porter ces fardeaux si
Jean-Thierry Mosenepo.
Merci beaucoup. D'abord, je voulais dire à notre compatriote de Béni que les comparaisons avec les tragédies malheureuses comme celle de 1994 sont non seulement inappropriées, mais intellectuellement fragiles. À l'époque, il n'y a pas eu les mesures qui sont aujourd'hui présentées par les gouvernements parce que, aussi, elles ignorent totalement la nature du dispositif actuel, qui est administratif, temporaire et strictement encadré. De même, affirmer que l'État congolais serait incapable d'assurer le contrôle revient à faire un procès d'intention, en contradiction directe avec les garanties explicitement données par le gouvernement sur la maîtrise, le filtrage et la sécurisation de ce mécanisme. Je voulais aussi ici ajouter que l'honorable Moindo sait très bien que l'article 213 de la Constitution est un peu plus clair et c'est sans ambiguïté. Et pour son information, les présidents des deux chambres ont été consultés, ce qui suffit à établir que cet engagement s'inscrit dans le cadre légal et institutionnel de la République. Et ajouter au professeur que, aux inquiétudes liées aux droits humains et au profil des personnes concernées, elles méritent d'être examinées avec rigueur et non instrumentalisées. Les dynamiques migratoires contemporaines impliquent des situations contraintes, mais elles sont encadrées par des mécanismes juridiques et administratifs précis. La vraie question est celle de la capacité de l'État à organiser, contrôler et sécuriser ce dispositif.
Justement, c'est un passage problème fondamental.
Non, mais sur ce point, les assurances claires ont été données. Vous avez vous-même, à l'entame de cette émission, décliné les clauses qui ont été exposées dans le communiqué du porte-parole du gouvernement. Donc, s'agissant enfin de ceux qui prétendent que la RDC aurait négocié à genoux, pour des Congolais qui le disent, c'est une honte. Il faut le dire avec fermeté. Cette lecture traduit une vision dépassée et complexée des relations internationales. Lorsque l'Allemagne fait avec la France et la Grèce des nivellements pour les flux migratoires, est-ce que l'Allemagne est faible par rapport à la Grèce? Un État ne négocie pas parce qu'il est faible. Mais d'ailleurs, un État négocie et compte dans le concert des nations parce qu'il a une utilité stratégique reconnue.
Merci.
Donc réduire cet accord à une posture de soumission, c'est refuser de voir que la RDC s'inscrit désormais comme un acteur qui compte et qui sait défendre ses intérêts dans un cadre maîtrisé.
Merci Jean-Thierry Mosenepo. Nous sommes à la fin de l'émission. Jean-Thierry Mosenepo, c'est quoi votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est dire clairement que la gestion de flux migratoire ne relève pas du droit civil. Il relève de ce qu'on peut dire le droit administratif, c'est-à-dire le droit des étrangers, et il régit les conditions d'entrée sur le territoire, le séjour, c'est-à-dire le visa et le titre de séjour, l'éloignement, c'est-à-dire l'expulsion ou les conduites, le contrôle aux frontières. En pratique, il s'agit d'un pouvoir de police administrative de l'État lié à la souveraineté.
Merci.
Et le droit international public, quant à lui, il encadre les relations entre les États sur ces questions. Accords de réadmission, coopération en matière de gestion migratoire et engagement relatif aux réfugiés.
Merci. Merci, honorable Christian Mwando Simba. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est de demander au gouvernement d'abandonner un peu la distraction. On ne peut pas, lorsque on est incapable de garder, de sécuriser ses propres enfants, de les entretenir, prendre les rebuts des autres familles ou ceux qui sont refusés ailleurs pour les recevoir chez soi. Aujourd'hui, la priorité de notre pays, c'est la stabilité de notre pays, c'est la paix, c'est la sécurité et c'est le développement économique. Donc, arrêtons de recevoir des gens qui ne sont pas désirés ailleurs et qui vont venir déstabiliser davantage notre pays et qui vont venir nous distraire par rapport aux priorités que notre pays a.
Merci, professeur Alidor Sibanda. Votre mot de la fin?
Non, mon mot de la fin, c'est de rappeler à l'État d'être anticipatif et de mettre beaucoup de sagesse sur cette question délicate qui risque de reproduire le même tard du passé. Gérer, c'est être prophète et savoir anticiper. Quand on est prophète, on sait dire le lendemain ce qui pourrait arriver et on sait mettre des batteries pour que ça ne puisse pas arriver. C'est pourquoi Moïse consultait tout le temps Dieu pour savoir ce qu'il pouvait faire avec les enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu, c'est à travers toutes les capacités d'intelligence ici, toutes les intelligences, les services de sécurité et tout le monde, pour permettre au pouvoir de prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi il y a l'ANER, il y a tous les services d'intelligence là qui doivent accompagner l'État à faire de meilleurs choix. La Merci. Politique, c'est dans le choix.
Merci, c'est par ces mots que nous clôturons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, honorable Christian Mwando Simba, monsieur Jean-Thierry Mosenepo et professeur Alidor Chibanda. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique et Pierre Diassinois qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bon soutien de programme sur Radio Capi.